Nous sommes toujours sur le thème de l'Église. Et la semaine dernière, avec Xavier, vous avez eu l'occasion justement, il a eu l'occasion de réfléchir, de méditer sur l'Église dans le temple et les maisons. Et il a pu démontrer, en utilisant la parole de Dieu, bien évidemment, que l'Église, bien évidemment, a eu besoin, à un moment donné, à cause de la croissance, de trouver un lieu de rassemblement, parce que quelquefois, et même c'était le cas, ce n'était plus possible de se réunir dans les maisons. Hein? Il aurait fallu multiplier, mais vraiment, les maisons. Vous savez que la plupart des gens qui s'étaient convertis à Jérusalem, la particularité, c'est que c'était pas tous les habitants de Jérusalem. Même les disciples de Jésus, ils venaient de Galilée. Donc, ce n'était pas simple pour eux de s'établir. Et donc, il y avait les deux, le temple et les réunions de maison. Et il a pu justement voir avec vous comment est-ce que, justement, le temple peut s'épanouir, l'Église dans le temple peut s'épanouir, et comment est-ce que l'Église aussi, dans les petits groupes, dans les maisons, peut également s'épanouir. Et nous avons besoin de considérer ces choses parce que nous entendons tellement de fausses doctrines, nous entendons tellement des choses qui n'ont rien à voir avec la Bible. Les gens sortent tout de leur contexte et ils disent ce qu'ils ont envie de dire parce que ça les arrange. On est un peu comme ça. Mais je sais qu'à Angers, personne n'est comme ça. Personne n'est comme ça. C'est pour ça que je peux vous regarder droit dans les yeux. Parce que vous n'êtes pas comme ça à Angers. Vous êtes des gens tellement altruistes que même des fois, le Seigneur vous dit, mais pense un peu à toi-même. C'est une bonne qualité. Et ce matin, j'aimerais vraiment poursuivre, toujours dans le thème de l'Église, l'Église corps de Christ. Vraiment, le corps. C'est vrai que nous avons du mal avec la notion de corps. Quand on parle de corps, en général, les gens, ils croient que c'est quand nous venons pour nous réunir. Non, il n'est pas d'abord question de cela. Si nous nous réunissons, c'est parce que nous sommes à la base un corps. Eh bien oui, c'est ce que je disais un peu à Cholet hier. Je disais, le problème que nous avons, c'est que les chrétiens croient qu'ils vont être sauvés parce qu'ils vont aller au ciel. Je dis non. Je dis, c'est parce que tu es d'abord sauvé que la conséquence, c'est d'aller au ciel. C'est pas au ciel que tu vas être sauvé. Sinon, notre ami aux lunettes va avoir raison. C'est lui qui dit que tout le monde ira au paradis. C'est parce que tu es sauvé sur la terre que tu iras au ciel. La conséquence, c'est que tu vas aller au ciel. Le salut se passe sur la terre. Le salut, c'est pour les hommes et les femmes de la terre. L'Église, nul besoin de le rappeler, ce texte où Jésus nous dit dans Matthieu 16, il nous dit qu'il va bâtir son Église. C'est Jésus qui prend la décision de mettre en place son Église. Et lorsque Jésus donne cette information, il ne donne pas, il ne donne pas justement les détails sur comment est-ce qu'il va bâtir son Église. Il nous dit juste que cette église qu'il va bâtir, elle va prévaloir sur les portes du séjour des morts, sur l'enfer, sur les ténèbres. C'est ce que Jésus nous dit. Jésus nous dit qu'il va bâtir. Et c'est avec les apôtres, et beaucoup plus particulièrement avec l'apôtre Paul, que nous allons avoir la révélation de ce qu'est l'église. Et c'est là où l'apôtre Paul va nous dire, dans le premier texte que nous allons lire, ce qu'est l'église. Il va dire aux chrétiens de Corinthe, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Ça nous embête un peu. Oui, vous êtes le corps de Christ. Oui. Mais le corps de Christ, on ne le voit pas. À la limite, si ceci avait été dit lorsque Jésus, et même si ça avait été le cas, lorsque Jésus était physiquement sur la terre, vous imaginez si on avait dit aux disciples, vous êtes le corps de Jésus. Ils se seraient dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Nous, on voit bien Jésus. Moi, Pierre, je vois que j'ai le mien. Jacques, j'ai le mien aussi. Alors, André, j'ai le mien. J'ai mon corps. Jésus a le sien. Comment est-ce que nous, on peut être le corps de Jésus? Nous avons besoin de comprendre cette notion. Vous savez, il y a un homme de Dieu qui a impacté sa génération. Watchman Nee qui disait quelque chose de très important. Il disait, si nous ne faisons rien en tenant compte du fait que tout est dans le corps et que le corps est pour Christ, tout ce que nous faisons est nul et non avenu. Si nous faisons tout en dehors du corps de Christ, cela n'a aucune importance. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible dit que Dieu a réconcilié toutes les choses. Celles qui sont ici en bas sur la terre et celles qui sont dans les cieux, il les a réconciliées en qui? En Christ. Et il dira même pour nous qui sommes devenus son corps, il dira que toutes les bénédictions que nous avons, elles sont en Christ. Le salut, nous l'avons en Christ. La vie, toute chose, nous l'avons en Christ. Et c'est pour cette raison que, justement, l'apôtre Paul va rappeler cela aux Corinthiens. Pourquoi est-ce qu'il va le dire aux Corinthiens? Parce que les Corinthiens, c'était une église où il y avait vraiment une effusion du Saint-Esprit, ou du moins des dons de l'Esprit. Ils expérimentaient énormément l'exercice des dons spirituels. Mais quand on regardait leur vie à côté, on pouvait se demander si ceux qui donnaient ce don spirituel-là, c'était les mêmes personnes, vu la manière de vivre en dehors, bien évidemment, des dons spirituels, et même parfois pendant les réunions. Et le Saint-Esprit va sommer l'apôtre Paul pour dire, écris-leur, envoie-leur une lettre pour dire que leur façon de vivre n'est pas conforme, justement, à la vie du corps de Christ, parce qu'ils vivent n'importe comment. Ils font comme ils ont envie, ils n'en font qu'à leur tête. Et l'apôtre va leur dire, mais il faut que vous sachiez une chose, c'est que vous êtes le corps de Christ. Alors si nous sommes le corps de Christ, respect. Vous savez, j'ai écouté un jour un homme de Dieu qui disait, quelquefois nous sommes là en disant, Alléluia Seigneur, nous chantons, nous dansons. Et il disait, est-ce que vous croyez que si Jésus vous apparaissait en chair et en os, est-ce que vous pourriez même dire encore Alléluia? Vous ne pourriez même pas dire Alléluia. Parce que nous n'avons pas conscience que nous appartenons à Dieu, que nous faisons partie du corps de son Fils, et qu'en tant que tel, nous sommes la propriété de Dieu. Et si cette notion-là nous échappe, ou que nous ne voulons pas justement en tenir compte, nous ne sommes pas en règle par rapport à l'Évangile. C'est pour cette raison que nous avons une mentalité qui fait que nous ayons envie de faire comme nous avons envie. Ça ne marche plus, frères et sœurs. Nous voyons aujourd'hui les limites de cette façon de faire. Lorsqu'on ne tient pas compte du corps, mais on est en dehors du corps soi-même. Cette façon de faire a atteint ses limites. Lorsque nous considérons l'Église, dans les premiers temps, les temps apostoliques, nous voyons que l'Église, ils tenaient compte les uns des autres. Ils ne faisaient pas n'importe quoi. Vous ne pensez même pas, parce que vous ne pensez pas que vos actes ont des conséquences sur ceux et celles qui vous entourent, sur le reste du corps. Si vous étiez conscient de cela, vous ne feriez pas n'importe quoi, nous ne ferions pas n'importe quoi. Mais comme nous pensons à nous-mêmes, mais il n'y a aucun membre dans le corps qui pense à lui-même. Le membre n'est important que parce qu'il est dans le corps. En dehors du corps, il n'a aucune importance. Si nous avons cette notion de corps, il y a des choses que nous ne ferions pas, frères et sœurs. On doit s'interroger. Il n'y a pas d'individualisme dans la vie chrétienne. Ça n'existe pas. Il n'y a nulle part ça dans la Bible où vous allez trouver l'individualisme. Non. Si nous vivons encore de cette manière, c'est que le monde, c'est celui qui nous influence encore. C'est que nous n'avons pas encore été transformés par le renouvellement de l'intelligence. Nous marchons encore selon le courant de ce monde. Nous marchons encore selon les manières de ce monde. Parce que notre intelligence est toujours obscurcie. Mais si nous acceptons ce matin que notre intelligence est renouvelée continuellement par la parole de Dieu, parce que notre intelligence est renouvelée, nous avons désormais accès à la volonté de Dieu qui nous appelle à la sainteté, qui nous appelle à la sanctification, qui nous appelle au respect du corps de son Fils. Est-ce que nous allons être conscients de ces choses, Église, peuple de Dieu? Est-ce que nous allons continuer à marcher n'importe comment? Est-ce que nous allons mépriser le corps? Nous Nous avons une responsabilité. Cette façon de faire a atteint ses limites, frères et sœurs. Si nous voulons avancer ensemble dans ce pourquoi le Seigneur nous a appelés, nous devons tenir compte de ce qu'est le corps. Voici, toujours dans cette même épître aux Corinthiens, voici ce que l'apôtre Paul va dire aux Corinthiens. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul. Dans quel but ? Pour former, que nous soyons juifs, que nous soyons grecs, que nous soyons esclaves, que nous soyons libres, ou que nous soyons, que nous avons, voilà, et nous avons été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre. Xavier a longuement prêché là-dessus, mais il est formé de plusieurs membres. Nous avons été baptisés dans le même esprit, dans le but de former le même corps. Frères et sœurs, vous savez, moi je suis surpris. Certainement, vous allez me dire, ben oui, ben il est bizarre, ça on le sait déjà. Mais moi je suis surpris de la façon dont nous vivons notre christianisme aujourd'hui. Moi je suis surpris, je ne comprends pas. Vous savez, moi quand je me suis converti, vous allez dire, mais il était prétentieux, il était orgueilleux. Quand je me suis converti, j'ai dit à Dieu, je sais comment le monde fonctionne. Je sais comment réussir dans le monde. Je sais comment, je connais les rouages du monde, je sais comment le monde fonctionne. Je sais comment on réussit dans le monde. Je lui ai dit, Seigneur, moi je me suis converti. Si c'est pour n'importe quoi, si c'est pour la rigolade, on arrête tout de suite. Moi, je veux foncer. J'ai choisi de marcher avec toi. Ce n'est pas pour que je regarde en arrière. Ce n'est pas pour que je regarde autour de moi. Je dis, je fonce devant toi. Parce que tu es le chef, tu es l'auteur de ma foi et tu es celui qui prend plaisir lorsque je te fais confiance avec la foi que tu m'as donnée. Je dis, je suis pas là. J'avais téléphoné à un de mes copains du lycée, de la fac. Il était à Perpignan à l'époque. Je lui ai dit, je me suis converti. Il m'a dit, laisse tomber, monsieur Mavungu, on verra dans 2 ans. Ça fait 14 ans que ça dure, par la grâce de Dieu. Frères et sœurs, si nous ne sommes pas sérieux avec Dieu, Dieu ne sera pas sérieux avec nous. Si nous ne prenons pas au sérieux ce que lui considère avec beaucoup de sérieux, comment voulez-vous qu'on soit amis, comment voulez-vous qu'on marche ensemble? Nous avons des intérêts divergents. Comment voulez-vous qu'on marche ensemble avec ce Dieu? Dieu dit le corps de son fils, c'est l'Église. Et il dit que son fils, c'est la tête. Et nous, on est là, on considère le corps, l'Église, comme une option. Oh, je réfléchis un peu. Ouais, bon. Oh, c'est pas grave, Dieu comprend. Dieu, c'est un papa, il est assis, il est gentil, il a des friandises dans ses deux mains. Et puis voilà, quand on boude un peu le Père, il nous donne quelques friandises. Non, ça ne marche pas comme ça, frères et sœurs. Dieu a des principes et il s'attend à ce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous puissions justement obéir à ses principes. C'est ce que l'apôtre Paul, maintenant nous allons voir ensemble de quoi justement l'Église, ce corps est constitué. La Bible nous dit que Christ, c'est lui le chef, c'est lui la tête du corps. Mais de quoi est constitué le corps véritablement, les membres du corps? Quelle est la nature des membres du corps de Christ? C'est ce que nous allons lire dans l'épître aux Galates maintenant. Voici ce que l'apôtre Paul dit toujours. Vous tous qui avez été baptisés en, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Car tous vous êtes en Jésus-Christ. Voici ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit qu'il y a principalement trois catégories qui sont face à face. Chaque catégorie. La Bible nous dit qu'il n'y a plus ni juif ni grec. Pourquoi l'apôtre Paul parle de ni juif ni grec? Parce que nous devons comprendre que les juifs, la religion juive, c'était la religion la plus parfaite. La religion la plus parfaite. Et les Grecs étaient considérés non seulement comme étant les païens, ceux qui n'avaient pas le Dieu des Juifs, mais ils faisaient également partie de ce qu'on appelle les savants, les intellectuels. Donc la Bible nous dit, en Christ, il n'y a plus ni religion, ni intellectuel. Xavier disait la semaine dernière, il n'y a plus de Togolais, il n'y a plus de Béninois, il n'y a plus de... Il n'y a plus ni religion en Christ, il n'y a plus ni intellectuel. Ça dit qu'en Christ, toutes les barrières sont tombées. La barrière qui faisait que les Grecs et les Juifs n'aient rien en commun en ce qui concerne le Dieu vivant et vrai, elle est tombée en Christ. Désormais, les religieux qui acceptent Jésus-Christ et ceux qui étaient païens, qui n'avaient pas le Dieu de Jésus-Christ, désormais ils peuvent être ensemble. Il n'y a plus ni Juifs ni Grecs. Il n'y a plus ni esclaves ni libres. C'est-à-dire que le patron et son employé sont égaux devant Dieu. En Christ, ils sont égaux. Cela ne veut pas dire que l'employé ne doit plus travailler pour son patron. Ça n'a rien à voir. Si vous faites ça, vous allez être renvoyé. Il n'y a plus ni esclave, il n'y a plus ni serviteur, ni maître. En Christ, vous êtes tous égaux. Et la Bible nous dit aussi qu'il n'y a plus ni homme, ni femme. Et ça nous embête. Ça nous embête, on n'aime pas ça. On dit, mais ce type-là, il est bizarre. D'un coup, il nous dit, il faut... Un temps, il nous dit, bon, ça là, il ne faut pas y toucher, il ne faut pas considérer. Après, il nous dit, mais il n'y a plus en Christ, frères et sœurs. Il faut que nous comprenions. Quand on parle de Christ, là, il est question de l'Église qui est une entité spirituelle. Il est question de l'Église qui est une entité spirituelle. Il n'y a plus ni homme ni femme. Pourquoi ces trois catégories? Parce que comme vous le savez, la religion ne mène pas les gens où ils veulent aller. La religion va être établie sur des dogmes. Et les intellectuels eux-mêmes, les Grecs, c'était des philosophes, des intellectuels, des savants. Ils ont même dit, lorsque l'apôtre Paul parle de la croix, ils vont dire à Paul, ils vont dire, mais ton histoire là, c'est de la folie. Quel est le coefficient de corrélation entre ce Jésus qui a été crucifié comme un brigand et le fait qu'il soit le sauveur de l'humanité? Il dit, intellectuellement, je ne vois aucun lien. Donc, ton histoire là, c'est de la folie. Et les religieux, vous savez ce qu'ils ont dit à Jésus, à Paul? Les juifs, ils ont dit à Paul, ils ont dit, mais c'est un scandale. Comment tu peux nous dire que celui qu'on a crucifié comme un brigand là, c'est lui le sauveur qui devait venir, c'est lui le Messie? C'est un scandale, tu es en train de nous scandaliser, tu veux simplement nous détourner de notre religion est bonne, notre religion est pure. Ce n'est pas un brigand, ou du moins ce n'est pas celui qui a été crucifié comme un brigand qui peut être un sauveur. Un sauveur, c'est un meneur d'hommes. Un sauveur, c'est quelqu'un qui vient, qui prend une armée et qui affronte toutes les armées, qui va arriver à les vaincre. Et vous savez, il y avait une autre catégorie, c'était les politiques. Et ils ont dit non, c'est juste la rébellion. Rome dit ça, c'est de la rébellion contre César. Ils veulent juste se révolter contre César. Toutes les trois catégories étaient là. Les religieux, les intellectuels et les politiques. Et même les gens du peuple étaient au pied de la croix. Ils disaient, crucifie-le. Personne n'a rien compris à la croix. C'est pour ça que peut-être nous avons encore du mal à comprendre ce que c'est le corps de Christ. Ni la religion, ni notre raisonnement. Toutes ces choses sont peut-être utiles, mais elles ne peuvent pas nous donner accès au corps de Christ. La Bible dit que c'est Dieu qui est venu nous chercher et nous a placés comme il veut dans le corps de son Fils. C'est pour cette raison qu'un esclave peut devenir... Eh oui. Un esclave, parce que Dieu va le positionner pasteur, mais il va enseigner son maître. Ça ne veut pas dire qu'il est devenu meilleur que son maître. C'est juste que Dieu fait comme il a envie. Le corps de Christ, la tête, c'est Christ. C'est Christ qui chapeaute tout, c'est Christ qui donne les directives, c'est Christ qui donne la direction, c'est Christ qui conduit le corps, parce que c'est la tête qui conduit le corps. Mais les membres du corps, ce sont des hommes et des femmes qui sont... Les membres du corps sont constitués des hommes et des femmes qui viennent de partout. Des hommes et des femmes qui avaient des barrières culturelles, des barrières religieuses, des barrières, on va dire, qui étaient bloquées par des barrières de type social. Les classes sociales, l'esclave et le maître. L'homme et la femme par le genre, le sexe. Et la religion n'a jamais favorisé le développement de la femme. Je ne suis pas un féministe, frères et sœurs. Vous savez que je viens d'un continent où la femme est... Je sais ce que je vous dis. Mais quand Dieu a saisi mon cœur pour me parler de la femme, j'ai dit, mais Seigneur, ce n'est pas possible. Et c'est pour cette raison qu'en début d'année, je vous ai dit, Dieu n'a pas créé de sous-homme. Attention à ce que nous faisons. Dieu a donné une hiérarchie. Quand on dit de quelqu'un qu'il est chef, ça ne veut pas dire qu'il est meilleur. Ça veut simplement dire que tu as une responsabilité. On rigole avec ça. J'ai vu moi-même de mes yeux. J'ai vu quand j'étais petit enfant comment ma mère a souffert. J'ai vu tout ce qu'elle a pu endurer. Parce que son mari, qu'il a épousé, quelqu'un de la famille de mon père, était jaloux, il pouvait taper ma mère avec la machette. J'ai vu ces choses. Ces choses sont imprimées. Et j'ai dit, Seigneur, si c'est cela, je ne comprends pas. Ce n'est pas l'objet de mon message ce matin, frères et sœurs. Attention à comment nous traitons les choses. Quand Dieu nous dit, il n'y a plus ni homme ni femme en Christ, nous devons le prendre au sérieux. Nous ne pouvons pas priver le corps d'une catégorie de membres, c'est impossible. Si j'enlève le bras de mon corps, le corps est diminué. Si j'enlève le pied de mon corps, le corps est diminué. Même si je veux continuer à marcher, sautiller, mais le corps est diminué. Si nous enlevons les femmes du corps de Christ, ce n'est plus le corps de Christ. Le corps de Christ est constitué de tout le monde. Ça veut dire il n'y a plus d'origine. Il suffit d'avoir accepté Jésus comme sauveur et Seigneur. Et Dieu, par sa grâce et par son pouvoir, par sa souveraineté, il te prend et il te positionne dans le corps de son Fils. C'est cela l'évangile, frères et sœurs. Un jour, j'étais avec un pasteur qui est bien connu dans le monde évangélique, francophone, je ne donnerai pas le nom. Et puis je lui rendais visite, il était de passage pour une conférence à Paris. Et puis j'avais amené deux frères avec moi, je dis on va aller le voir. Et puis on discutait. Et puis pendant que lui était à Paris, il est d'un pays africain. Et puis là il me disait, j'ai eu des nouvelles de ma femme. Je dis alors, comment ça se passe? Il me dit, ah, je vous dis comme il a fait avec... Comme un Africain. Ah, mais la femme là, le feu, hein. Elle a l'onction dans sa vie. Et il disait les choses en rigolant. Pourquoi? Parce qu'au départ, les gens ne voulaient pas que la femme prêche à l'église. Ce n'est pas une église de 400 membres. 4000 membres à l'époque. Les gens ne voulaient pas qu'elle prêche. Mais son mari, qui lui-même était fermé justement à ce que les femmes puissent prêcher, quand il a laissé sa femme prêcher, il n'était pas. Il était à Paris. Sa femme était en train de prêcher en Afrique. Et les frères qui étaient justement opposés à cela ont pris le téléphone. Ils ont dit, ah oui, maintenant tu peux te déplacer comme tu veux, il y a quelqu'un ici. Tu peux te déplacer comme tu veux, il y a quelqu'un ici. Ça va faire bientôt 7 ans qu'ils sont mariés. La femme est venue trouver une église avec à peu près 4000 membres. Mais à cause de la présence de cette femme-là, l'église aujourd'hui est à peu près à 7000 membres. Frères et sœurs, il ne faut pas dire alléluia vite, hein, parce que ce qui vient après là. Frères et sœurs, nous avons une responsabilité. Nous ne pouvons pas amputer le corps de Christ. Non, ce n'est pas possible. Nous ne pouvons pas. Le corps de Christ, c'est le corps de Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec. Les barrières religieuses ne doivent plus nous séparer. Les barrières, je ne sais pas, de classe sociale ne doivent plus nous séparer. Les barrières de genre ne doivent plus nous séparer. Le genre ne doit plus être un problème. C'est pour cette raison que quelquefois, quand je vous entends, mes sœurs, quand je vous entends vouloir transformer à chaque fois fils en fille dans la Bible, je dis, mais voilà, vous n'avez pas compris. Quand vous parlez de fils dans la Bible, il n'est pas question du genre. Il est question d'héritage, c'est tout. Et vous voulez mettre fille à la place? Non. C'est par rapport à l'ancienne alliance, le fils héritier. Ce n'est pas une question de genre. Il n'y a pas de misogynie dans la Bible, non. C'est une question d'héritage. En Christ, il n'y a plus de genre. Vous savez, un jour, Jésus était physiquement sur la terre. Ses disciples lui ont demandé, ils lui ont dit, mais finalement, l'histoire là, qu'on commence sur la terre là, est-ce que ça se poursuit là-bas? Quand on est amoureux là, est-ce qu'on va retrouver sa bien-aimée? Dis donc, mais ils étaient bien préoccupés, hein, eux, hein? Ils étaient préoccupés par les choses de la terre. Ils voulaient que ça se poursuive dans le ciel, dans la présence de Dieu. Et Jésus va leur dire, vous savez que ces histoires-là, elles vont finir. Vous serez comme des anges. Mais oui, parce que les anges ne se reproduisent pas. Les anges n'ont pas cette histoire-là à faire. Ce n'est pas parce qu'on va être comme des anges avec des ailes ou je ne sais pas quoi. Non, c'est juste que les anges ne se reproduisent pas. Donc, en Christ, nous avons été sauvés en Christ. Nous allons vivre l'éternité en Christ. Donc, il n'y a plus de genre. Il n'y a plus de genre, frères et sœurs. C'est ce que l'apôtre Paul va encore dire à d'autres chrétiens, ceux de Colosse. Et dis donc, il avait du boulot, hein, l'apôtre Paul. Hein. Déjà aux Corinthiens, aux Galates, et là aux Colossiens, il va leur dire, il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout en tous. Il est obligé, le Saint-Esprit a dit, vas-y, dis-leur, parce qu'ils sont complètement à côté de la plaque. Frères et sœurs, nous voyons que l'Église est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Christ de bâtir son Église. Et lui-même est le chef, il est la tête de l'Église. C'est lui qui donne les ordonnances, c'est lui qui donne la direction. Son corps est composé des membres que nous sommes. Et nous devons prendre au sérieux le corps de Christ. Donc l'Église, en tant que corps, est constituée d'hommes et de femmes de toute génération, de toute langue, comme c'est marqué dans Apocalypse. C'est ça l'Église, en fait. Il y a tout le monde. Il y a les noirs, les rouges, les verts. Apparemment, jusqu'à présent, les verts, c'est à la télé seulement. Frères et sœurs, je vais aborder le deuxième point avec vous, qui est l'Église, qui est une agence de promotion du royaume. L'Église est une agence de promotion. L'Église, ce n'est pas le royaume. Non. L'Église est au service du royaume. C'est pour ça que Christ déjà va dire à son Père, je ne l'ai pas marqué, Christ va dire, Père, tu m'as formé un corps afin de faire ta volonté. Nous sommes dans le corps de Christ pour faire la volonté de Dieu, pas pour faire notre volonté. Puisque le membre ne peut rien faire de lui-même, si je bouge mes mains, mes bras comme je le fais maintenant, c'est parce que lui est en train de donner des ordres. Et si lui ne marche plus, par exemple, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je ne peux plus. Tout se passe dedans. Le corps de Christ. Et nous allons voir tout de suite pourquoi est-ce que l'Église est une agence de promotion du royaume. Déjà, lorsqu'il est question des ministères, dans Éphésiens, nous allons le lire tout de suite, la Bible nous dit, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Quand nous voyons déjà la nature des ministères que Dieu donne déjà à l'Église, nous voyons qu'il y a des ministères qui sont tournés en même temps vers l'Église et vers l'extérieur. Même si aujourd'hui, lorsque nous parlons de réunions d'évangélisation, il est plus question de faire des réunions ici, mais nous savons aussi que l'évangélisation peut se faire à l'extérieur et que l'évangélisation ne concerne pas les chrétiens, mais elle concerne des hommes et des femmes qui ne connaissent pas encore Dieu. C'est eux qu'on doit évangéliser. Nous avons déjà été évangélisés, nous avons accepté l'Évangile, nous avons accepté la vérité de l'Évangile, nous avons accepté le Fils comme Sauveur et Seigneur, c'est maintenant à nous. C'est pour cette raison que c'est le disciple qui fait des disciples. C'est une logique, frères et sœurs. Quand on voit un apôtre c'est quelqu'un qui va venir pour monter les églises, qui fait aussi parfois l'œuvre de l'évangéliste. On connaît bien l'apôtre Paul, ce qu'il a fait comme travail. Il y a d'autres ministères, par exemple, comme prophète, oui, qui peuvent aussi servir, bien évidemment. Parce que l'apôtre Paul nous dit, lorsque vous prophétisez, eh bien, vous pouvez dire les oracles de Dieu à quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Et son cœur peut être touché. Le pasteur, c'est plutôt la maman qui prend soin. Vous allez dire, oh là là, après tout ce qu'il nous a dit sur la femme, ça y est, il retombe dans les travers. Hein? Mais ça, il ne faut pas l'oublier, frères et sœurs. Ne tombons pas dans ce que le monde veut nous imposer. Dieu a dit que l'homme et la femme sont complémentaires, ils ne sont pas pareils. Attention. Faisons attention. Ils sont complémentaires. Ce sont les deux faces d'une même pièce. Complémentaires. Ils ne sont pas pareils. À quoi aurait servi à Dieu de faire deux êtres pareils? Donc la femme a des qualités que l'homme ne peut pas avoir. Et c'est comme ça. Il faut que nous fassions attention à ça aussi. Quand on dit en Christ, ça dit que la femme a accès à tout en Christ. Mais en tant qu'individu, l'homme et la femme sont complémentaires et sont censés aller ensemble. Non pas l'un sans l'autre, mais ensemble. C'est ensemble, l'homme et la femme, c'est ensemble qu'ils forment en fait une seule entité devant Dieu. Par les ministères, la Bible nous montre déjà que Jésus veut que l'Église soit tournée vers l'extérieur. Jésus veut que l'Église rentre dans la multiplication. Et sinon, pourquoi il aurait donné des évangélistes? Pour quoi faire? Si ce n'est pour faire en sorte que ceux qui ne sont pas encore gagnés soient gagnés au salut. C'est cela, frères et sœurs. Donc, quand il y a déjà les ministères, on sait que l'Église est tournée déjà vers l'extérieur. Et nous savons que cette Église qui est tournée vers l'extérieur, en fait, c'est difficile, c'est dur pour nous de comprendre cela. L'Église n'est pas une entité terrestre. La tête de l'Église est où? Vous êtes assis avec qui? Où? C'est pour ça qu'il dit les portes du séjour des morts, c'est-à-dire toute la foudre de Satan qu'il y a sur la terre ne peut pas prévaloir, parce que nous sommes positionnés en lui dans les lieux célestes pour dominer sur les ténèbres. Alléluia. C'est cela, nous sommes positionnés en lui. Dieu a voulu que nous soyons dans le Fils, dans les lieux célestes, pour que nous ayons une position de dominateur. Nous dominons par l'amour, nous dominons par la puissance de la prière, nous dominons par la puissance de la communion fraternelle. Nous dominons, ça ce sont des éléments avec lesquels nous dominons. Parce que le monde n'a pas ces éléments, le monde ne connaît pas la communion fraternelle, le monde ne connaît pas l'amour, le monde ne connaît pas toutes ces choses. Mais nous, parce que nous sommes positionnés en celui qui est toutes ces choses, nous pouvons dominer avec ces choses sur la terre. C'est pour ça que les portes du séjour de mort ne peuvent pas prévaloir contre l'Église. Parce qu'elle est positionnée en celui qui a vaincu, en celui qui a remporté la victoire, en celui qui a dépouillé l'ennemi de nos âmes, en celui qu'il a livré en spectacle, en celui dont le nom est définitivement élevé au-dessus de tout nom qui se nomme, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. C'est ce que l'apôtre Paul va dire aux chrétiens d'Éphèse. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que nous sommes. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux en Jésus-Christ. Qui c'est qui est allé quand on parle d'être ressuscité là? On n'est pas allé naturellement, on n'est pas allé. Quand Christ même l'a fait, personne de nous n'était né. Mais notre esprit a fait les 72 heures de Jérusalem avec Jésus. La Bible nous dit que nous sommes morts avec lui sur le bois de la croix. C'est-à-dire l'esprit, notre ancienne nature, qui était une usine à production de péché, elle est morte avec Jésus sur le bois de la croix, avec toutes ses passions. Et la Bible nous dit que nous sommes également descendus avec lui dans le tombeau. Nous avons été ensevelis avec lui. Et la Bible prend même l'image du baptême pour dire que c'est l'image de l'ensevelissement avec Jésus. Et la Bible nous dit que nous avons également été ramenés à la vie avec lui. C'est pour ça qu'on l'appelle le premier-né d'entre les morts. Mais quels les morts? Ceux que nous étions spirituellement. Nous sommes nés spirituellement en lui. Nous sommes positionnés spirituellement en lui. C'est pourquoi, mon frère, ma sœur, à chaque fois que tu pries Dieu, si tu ne viens pas avec la carte de visite Christ, Dieu ne t'écoute pas. Parce que c'est en lui qu'il t'a béni. Nous pouvons avoir tous des problèmes, mais si nous venons simplement avec nos problèmes, Dieu ne nous écoute pas. Dieu dit, tu viens avec qui? C'est qui ton passeport? Frères et sœurs, nous sommes positionnés en lui pour dominer. Comme je vous ai dit, l'Église est une agence de promotion. Et c'est ce que l'apôtre Paul va dire encore à ces mêmes chrétiens de Corinthe. Il va leur dire, car Dieu était en Christ. Dieu était où? Et il réconciliait le monde avec lui-même en imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Ah, donc on a la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Ça doit brûler en nous le fait de voir les perdus, frères et sœurs. Si nous ne tournons pas nos regards vers les perdus, nous manquons le deuxième volet, la deuxième mission de l'Église. La première mission de l'Église, c'est d'adorer Dieu, de manifester, de révéler Dieu. La deuxième mission, c'est celle justement de faire en sorte que ceux qui ne le connaissent pas encore puissent être justement réconciliés avec lui, parce que nous avons reçu la parole de la réconciliation. Et donc, quand je disais que l'Église est une agence de promotion du royaume, c'est parce que nous faisons les fonctions d'ambassadeur. Un ambassadeur, c'est quelqu'un qui est envoyé par son pays d'origine dans un autre. Ah ben oui. Pour faire quoi? Pour faire la promotion de son pays. Il ne s'embête pas à autre chose. L'ambassadeur ne parle jamais en disant « je ». Non! Il dira toujours « voici la position de mon pays. » Alors, toi, quand tu es devant les difficultés, quel est le type de langage que tu emploies? Est-ce que tu viens avec « je » ou tu dis « moi, je viens au nom de celui qui est le chef du royaume ?» C'est cela qui compte devant Dieu. Nous faisons les fonctions d'ambassadeurs. Nous sommes des envoyés. C'est ce que Jésus lui-même va dire dans ce qu'on appelle la prière sacerdotale. C'est ce que Jésus va dire dans Jean 17. Il est en train de parler à Dieu le Père. Il va lui dire, comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et dit, et si je me mets à part, c'est ce qu'il a dit, je me sanctifie. Si je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la... Ah, maintenant regardons ce qui suit. Il dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur... La parole de la réconciliation. Ah, donc, Dieu lui-même a déjà prévu la multiplication. Donc, la multiplication, c'est l'ADN qui est déjà dans l'Église, incorporé dans l'Église. On ne peut pas faire l'économie de la multiplication. Jésus dit, je ne prie pas seulement. Si le but, c'était d'avoir les disciples qu'il avait eu les 12, il leur dit, bon, Seigneur, maintenant j'ai fait ce que tu m'as demandé de faire, c'est bon, j'ai prié pour eux, ça y est, c'est fini. Maintenant, on va les faire venir au ciel et puis les autres, on va les griller en enfer. Non! Le programme de la multiplication, quand on lit les évangiles, il y est déjà. La multiplication est, fait partie de l'ADN de Christ, du corps de Christ du moins. Je ne prie pas seulement pour ceux que tu m'as donné, mais je prie aussi pour ceux qui vont croire que la parole que nous annonçons. Quand nous annonçons l'évangile, quand quelqu'un croit, Jésus a déjà prié pour lui. Alléluia. Frères et sœurs, c'est pour ça qu'il dit nous sommes des ambassadeurs. Il nous a envoyés avec cette parole de réconciliation. Donc la multiplication, on ne peut pas dire non, c'est pas possible, frères et sœurs. Si nous nous opposons à la multiplication, c'est comme si nous nous opposions à la croissance naturelle d'un enfant. La croissance naturelle d'un enfant est où? Elle est en lui déjà. Elle a juste besoin d'être révélée par quelques éléments extérieurs. Vous savez, les premiers chrétiens, parce qu'ils étaient d'arrière-plan juif, ont eu du mal avec cela. C'était vraiment un combat pour eux. Et vous connaissez bien l'histoire de Pierre et Corneille dans Actes 10. Vous savez comment Dieu a dû user justement de stratagèmes pour pouvoir faire comprendre à Pierre que désormais nous sommes maintenant dans ce que son fils a déclaré, que vous allez être mes témoins à Jérusalem. C'est bien Pierre, tu y es, mais vous allez aussi être mes témoins en Judée, toute la région. Vous allez aussi aller même chez les Samaritains que vous n'aimez pas beaucoup. Et ensuite, vous irez jusqu'aux extrémités de la terre. Mais si Jésus ne voulait pas qu'il y ait la multiplication, qu'allons-nous faire aux extrémités de la terre? Qu'allons-nous faire? Si nous refusons de grandir, grandir est obligatoire pour le corps de Christ. Grandir ne dépend pas de nous, comme Xavier le disait. Grandir dépend de celui qui a posé l'ADN de la croissance et de la multiplication dans le corps de Christ. C'est Dieu lui-même. Pierre a eu du mal. Dieu lui montre dans une vision. Il dit, tu manges? Il dit, non, Seigneur, moi je ne mange pas, c'est souillé. Et Dieu lui dit, non, ce que moi j'ai déclaré pur, personne ne peut le déclarer souillé. Et vous savez que quand Pierre arrive chez Corneille, il dit, en vérité, je reconnais maintenant que s'il y a dans quelques nations un homme qui craint Dieu et qui pratique la justice, il lui est agréable. C'est une façon de dire, j'avoue. J'avoue que j'étais à côté de la plaque. J'ai compris qu'avec Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Il n'y a point d'acception de personne. C'est ça que Pierre voulait dire. Et nous voyons même dans le livre des Actes, lorsque Barnabas va aller chercher Saul à Tarse, ils vont arriver à Antioche, et là ils vont prier. Et même, vous savez que même au début, lorsque les premiers chrétiens ont été justement dispersés à cause de la persécution, dans les villes où même ils se rendaient, ils ne s'ouvraient pas tout de suite au monde extérieur, c'est-à-dire aux païens, ils continuaient simplement à annoncer l'évangile aux juifs. Et là, alors qu'ils étaient en train de prier à Antioche, eh bien oui, ils étaient en train de prier à des prophètes, il y avait tout le monde, et puis là, ils sont surpris, ils étaient en train de jeûner, et le Saint-Esprit va leur dire, écoutez, vous avez beaucoup prié, c'est bien, vous avez beaucoup jeûné, et c'est ce que nous faisons aujourd'hui dans nos églises, oui ou non? Nous prions, nous jeûnons pour le salut, et quand on dit maintenant, rentrons dans la multiplication, oh non, 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 s'il te plaît, non, surtout pas ça, continuons à prier pour le salut, mais pourvu que nous restons le nombre que nous sommes. Mais ce n'est pas possible, frères et sœurs. Il faut que nous soyons logiques. Nous prions pour le salut. Le Saint-Esprit va dire, justement, aux chrétiens qui étaient là à Antioche, il va lui dire, non, non, vous avez prié, vous avez jeûné. Il dit, maintenant, moi, j'ai une nouvelle à vous annoncer. Je viens vous retirer Saul et Barnabas, parce que j'ai une œuvre à laquelle je les appelle. Et nous savons que l'œuvre à laquelle le Saint-Esprit a appelé Saul et Barnabas, et surtout Saul, c'est celle qui a permis que nous, aujourd'hui, du moins en Europe, que nous ayons reçu l'Évangile. Et vous savez que même en Afrique, c'est l'Europe qui a amené l'Évangile en Afrique. C'est parti d'où? C'est parti, justement, de ceux qui étaient là, qui n'avaient pas compris que la multiplication, c'était quelque chose d'obligatoire. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie. Et de là, ils embarquèrent pour l'île de Chypre. Ah, là, c'est plus la Palestine, hein, c'est fini là. Ils sont à l'extérieur, ils sont bien à l'étranger là. Déjà à Antioche, ils sont à l'étranger. Je crois que l'Antioche, si ma mémoire est bonne, c'est la Syrie actuelle. Et ils sont déjà à l'étranger. Vous voyez, frères et sœurs, on ne peut pas faire l'économie. On ne peut pas. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Regardez ce que la Bible nous dit dans Éphésiens 4. Ainsi, nous ne serons plus des petits-enfants ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties, c'est-à-dire à chacun de ses membres, et s'édifie lui-même dans l'amour. Regardez ce que la Bible dit. Frères et sœurs, un corps qui n'est pas uni ne peut aller nulle part. Imaginez-moi un peu, si mon bras droit me disait, moi j'ai envie d'aller dans le petit local, dans la petite pièce, et que mon bras gauche me dise, ah non, moi je vais aller de ce côté-là, comment je fais? Vous avez remarqué que même quand vous avez mal quelque part dans un membre ou un endroit de votre corps, le corps entier ira toujours dans la même direction, oui ou non? Le corps ne peut pas se diviser en disant non, chaque membre peut aller où il veut, chaque membre peut faire comme il veut. Non, le corps va toujours dans une direction. Si moi je vais dans ce sens, même si mon pied a envie d'aller en arrière, il n'ira pas parce que moi je vais comme ça. C'est ça l'unité, frères et sœurs. Nous sommes unis. Dieu nous a placés dans le corps. Nous sommes unis. Et il dit bien lui-même que il convient à chacune des parties, c'est-à-dire à chaque membre du corps, hein, de s'édifier dans l'amour, frères et sœurs. Nous ne pouvons pas. Donc le corps qui va croître, ben c'est le corps qui commence enfant, qui continue, ou du moins qui commence nous bébé, nourrisson, comme on dit, enfant, qui va arriver ado, qui va être adulte. C'est la même chose dans le niveau spirituel. Un corps qui n'arrive pas à maturité ne peut pas se multiplier. Et la clé de la maturité commence, la clé principale, c'est l'unité. Le corps doit être bien coordonné et solidement uni. Solidement uni. Les membres doivent être les uns dans les autres, pas avec les autres seulement. C'est les uns dans les autres. Je vais vous lire quelques textes, juste pour conclure, pour vous dire que même dans les paroles de Jésus, il y avait déjà la notion de la multiplication. C'est ce qu'il nous dit dans Matthieu 5, il dit, vous êtes le sel de la terre, mais si le sel, et il va nous dire, vous êtes la lumière du monde. Non, il n'a pas dit, vous êtes le sel de l'église. Le sel de la? Ah, la lumière du? Ah. Ça veut dire quoi? Ça dit que nous sommes censés toucher ceux et celles qui sont à l'extérieur. C'est ce que ça veut dire. Il n'a pas dit vous êtes le sel de l'église, non, frères et sœurs. C'est pourquoi il va dire aux disciples, avant de s'en aller au ciel, il va dire, faites dans Matthieu 28, faites de toutes les nations des... Ah! Si on fait de toutes les nations, si on fait des disciples dans toutes les nations, que va-t-il se passer? On va rester le même nombre? Si on fait des angevins et des angevines, des disciples, est-ce que nous allons rester le même nombre? Ce n'est pas possible. Frères et sœurs, et il nous donne un gage, il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. C'est lié d'abord à ce qu'il dit. C'est lié au fait que nous fassions des nations, nous fassions des disciples dans toutes les nations. C'est ce qu'il va dire, les paroles que Luc va répéter dans Actes. Il va dire, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes à Jérusalem. Ah là, on est content, on est à Angers, nous. Dans toute la Judée, bon, on est dans les pays de la Loire. On n'a pas voulu se mélanger avec d'autres. Dans la Samarie, là, la Samarie, ce sont nos frères qui sont du côté... moi, j'ai rien dit, hein, c'est vous qui le dites. Et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est la multiplication. Elle est incontournable. Comme Xavier disait la semaine dernière, on est passé de 120 à 3000, 5000 et l'Église ne cessait de grandir. Le nombre d'âmes ne cessait de se multiplier parce que dans le programme de l'Église, il y a la croissance numéraire, il y a la croissance qualitative aussi. Et la croissance numéraire ne doit pas éluder la croissance qualitative, parce que c'est notre croissance qualitative qui fera que nous fassions des disciples. Si nous ne sommes pas nous-mêmes matures, nous allons en faire quoi? Des immatures. Que nous le voulions ou non. Le mouton ne fait pas de chèvre. Si nous-mêmes on n'est pas disciples, on ne pourra pas faire de disciples. On fera ce que nous sommes. Frères et sœurs, nous avons cette responsabilité. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Seigneur, merci. Merci pour cette grâce particulière. Louange à toi, gloire à toi. Amen.